dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Laurence Alanic,
Baptiste Antoine,
Maïs Acostache.
Bonjour, bonsoir. La prestigieuse revue littéraire britannique Grantal a désigné deux fois comme l'un des meilleurs jeunes romanciers de Grande-Bretagne. La première fois, il n'avait même pas encore publié de roman, c'est dire si sa réputation est établie. Son premier roman est sorti depuis, il s'intitule Politique, il a été traduit en 18 langues et lui a donné une réputation à la fois facétieuse et subversive, érudit mais aussi un peu loufoque, bref, toujours surprenant. Adam Thirlwell est à la fois complètement anglais et parfaitement francophone. Son nouveau roman s'intitule Candide et Lubrique, ce qui est déjà tout programme. Il est paru aux éditions de L'Olivier dans une traduction de Nicolas Richard et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Adam Thirlwell.
Bonjour.
Nous sommes dans une ville sans nom avec un personnage principal qui est le narrateur et qui n'a pas non plus de nom. C'est un type comme vous et moi ?
Oui, évidemment. Je voulais en quelque sorte écrire un roman global, un roman universel. Et donc, cette espèce d'anonymité, c'était un jeu avec ce que c'est un paysage et oui, et ce que c'est un peu différent, je crois, l'anonymité du narrateur. Ça, il s'agit d'un autre jeu, mais le fait que ce roman se déroule dans un paysage, c'est un peu comme la banlieue de Londres où j'ai grandi, mais en même temps, c'est une banlieue tropicalisée et donc il y a des parcs miés et tout ça. Donc,
mais parce qu'il y a plusieurs éléments comme ça qui parsèment le roman et on se dit, ben on est en banlieue, ça c'est très clair, mais dans une banlieue de quelle ville, de quel pays, on a parfois du mal un peu à vous situer, comme si vous-même vous aviez voulu jeter le doute, le trouble dans l'esprit du lecteur.
Oui, exactement. Et aussi, j'avais une petite théorie à moi qui était que partout, les banlieues dans le monde entier, ils se ressemblent un peu. Et donc, je crois que ce qui m'intéresse, c'est que si on va, disons, à Los Angeles ou à Santiago, en Chili, il y a toujours la même architecture, le même sens de l'espace. Il y a toujours ces espaces assez vides et avec une architecture assez horizontale, les non-lieux, disons. Et donc, c'était pour capturer ça que je voulais faire ça.
Donc, un type normal, anonyme, dans un non-lieu, hein, pour reprendre votre expression. Et dès la première scène du livre, quand même, ce type normal se trouve dans une situation assez anormale. Il se réveille dans une chambre d'hôtel, aux côtés de sa maîtresse. Alors, jusque-là, rien de vraiment extraordinaire. Ça arrive quand même à plein de gens sur la planète. Sauf qu'il finit quand même par se rendre compte très vite, eh bien, qu'il y a une traînée de sang sur l'oreiller, à côté du nez de la jeune femme. Et là, c'est le début pour votre personnage d'une avalanche de questionnements. On est page 38 de votre livre.
Je n'avais fait que me réveiller, pour la toute première fois de ma vie, à côté d'une femme qui n'était pas mon épouse. Est-ce si fâcheux ? Réellement, je ne pensais pas que les événements majeurs fussent réels, comme les meurtres, la mort, la destruction. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que de telles choses pouvaient vraiment se produire dans une vie. Et maintenant que ça me tombait dessus, j'en étais stupéfait, et déconcerté aussi. Oui, je pense que c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à avoir la vague petite idée, comme lorsqu'on voit un chat passer dans un film porno amateur et qu'il reste assis à l'image, cette idée m'est apparue de la même manière, en arrière-plan, que peut-être j'étais condamné. C'était comme quand vous regardez en l'air un avion qui passe au loin en songeant, durant un triste instant, qu'il est possible que ses moteurs viennent à capoter. Je trouvais vraiment que ce n'était pas juste. Le mal infligé, sous toutes ses formes, me déplaît. Je suis devenu végétarien après avoir eu une vision de vache saignée, entièrement dépecée et saignée, et qui saignait des yeux. Le mets le plus succulent que j'avais jamais mangé était ce plat végétarien qui avait goût d'oie, que j'appréciais par-dessus tout pour sa noble ingéniosité. J'essaye d'apprendre par moi-même le banjo. La lecture des petites annonces me rend triste. Je n'ai aucune méchanceté en moi. Alors arrange-toi, se disait le destin, contemplant le tableau, tel un connaisseur, pour que chaque pouce de terrain soit piétiné et imbibé de sang. Je ne pense pas que ce soit une exagération. Cela correspond aux faits tels que je les vois.
Adam Thirlwell, il y a une figure de style récurrente dans ce roman, dans ce que raconte votre narrateur, c'est la comparaison. Oui. On l'a attendu à l'instant, et en particulier dans la première partie du livre, c'est comme. C'est vraiment des mots qui reviennent comme ça, comme si votre narrateur avait besoin de références.
Oui, exactement. Et aussi, j'avais cette idée dans ma tête que ces comparaisons pouvaient donner un autre récit à l'intérieur du récit. il s'agissait, je crois, toujours de cette recherche de roman mondialisé, quoi.
Oui, c'est-à-dire que le narrateur ouvre des portes à lui-même, qu'il emprunte. Et parfois il revient en arrière, parfois au contraire il prend la porte suivante et ainsi de suite.
Quoi. Oui, exactement. Et aussi toujours les comparaisons, ils mènent à un autre monde souvent, dans un monde quelquefois plus heureux, mais même si c'est fragile, mais plus heureux et plus joyeux, alors que le récit continue dans son destin assez tragique, assez mélancolique.
Bon, il se pose beaucoup de questions quand même à votre personnage. Il intellectualise beaucoup sa vie, tout ce qu'il fait. Il intellectualise aussi ses pensées. C'est quoi ? C'est quand même le plus sûr moyen d'être malheureux, de se poser autant de questions.
Oui, mais aussi, je crois que nous vivons dans une époque qui est très, très intello à cet égard. Je veux dire, tout le monde se dresse ses portraits, tout le monde est obsédé par la description de soi. Et ce que je voulais aussi, c'était qu'il y aurait un décalage entre ces pensées assez baroques et aussi les événements qui étaient un peu tirés des séries noires. Et ça m'amusait beaucoup de voir le décalage.
Oui, parce que c'est un peu comme si c'est essayer un peu d'organiser sa conscience, de trouver des lignes morales à sa vie dans un monde où il n'y a plus tellement de repères, en fait.
Oui, mais ce qui m'intéresse aussi dans un roman, c'est comment il y a, évidemment, il y a le roman d'aventure, quoi. Et moi, je veux toujours confondre les choses un peu. Et donc, je voulais faire un roman où les vraies aventures seraient les pensées. Et donc, oui, il y a des grands événements comme le son. Et plus tard, il y a beaucoup plus de violence dans ce roman. Mais les vrais événements, je crois, ils sont beaucoup plus petits. Et donc, peut-être un changement d'avis ou changement d'éthique, ça me semble, c'est ma petite révolution romancière.
Oui, alors des petits événements, et puis un mot avec une capitale, avec une lettre en majuscule, c'est le mot « destin ».
Oui.
Là aussi, c'est un mot qui revient très régulièrement, on l'a entendu d'ailleurs dans l'extrait à l'instant, c'est un mot qui revient très régulièrement dans le livre. Est-ce que c'est un roman, finalement, Adam Sorwell, sur la liberté que vous avez écrit ?
Il y a toujours quelque chose de très binaire dans ma pensée, je crois, en tant que romancier. Et donc, c'est un roman sur la liberté et en même temps sur les pièges. Et donc, ce que je voulais décrire, c'était un personnage qui veut toujours refuser la responsabilité. Il dit toujours, c'est pas moi, c'est le destin. Et ça m'intéresse beaucoup, comment on essaie d'éviter la culpabilité, parce que, et c'était pour ça, en fait, c'est pour revenir à cette question de l'anonymité, parce que je voulais pas du tout lui donner un nom, parce que je voulais un peu confondre le narrateur avec moi, et ça m'intéressait parce que ça diminue la distance entre moi et le lecteur. Et donc, je voulais en quelque sorte corrompre le lecteur avec ce personnage qui est à la fois innocent et coupable.
Oui, alors c'est vrai que il ment beaucoup, hein, votre personnage. Et d'ailleurs, vous parliez de piège à l'instant, Adam Sorwell, c'est peut-être son mensonge finalement qui en entraîne d'autres comme ça et qui crée ces fameux pièges. C'est lui-même finalement qui crée les trappes dans lesquelles il va
exactement,
tomber.
Exactement, oui, exactement. Et parce que j'ai emprunté une épigraphe du roman de Knut Hamsun, La fin, et ça, c'était où le narrateur de ce roman dit, mais pourquoi est-ce que c'est moi qui dois souffrir? Pourquoi pas un homme de personnage très secondaire dans le roman? Parce que vraiment, il pense que c'est pas juste, c'est pas que la justice lui manque. Alors que oui, vous avez raison, c'est évidemment, on pourrait dire que c'est sa faute.
Oui, c'est sa faute, mais il n'est pas responsable. Hein.
Oui.
Voilà, donc il est encore moins coupable, forcément.
Oui,
c'est un peu pour Pilate, quand même.
Oui, hein. Je crois que ça, c'est vraiment, pour moi, je voulais l'explorer parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir dans l'histoire. Et surtout, je crois, dans l'histoire du XXe siècle qui m'a obsédé dans mes deux premiers romans, que on vit dans des sociétés très bureaucratiques et on peut toujours dire moi je ne fais que mon boulot et donc c'est pas ma faute si des choses terribles se passent. Et donc je voulais vraiment explorer est-ce qu'on est responsable pour des événements lointains Et est-ce qu'on peut vraiment éviter la responsabilité, la culpabilité?
Alors, il y a aussi un autre personnage très important dans le livre, c'est Hiro.
Oui.
Hiro, c'est le meilleur ami de votre narrateur. Je sais pas d'ailleurs si c'est un ami ou si c'est un mauvais génie.
Oui, c'est un peu. En fait, l'un de mes amis romanciers allemands m'a écrit et me disait, mais tiens, je pensais que ce héros est, je pensais qu'il était imaginaire, je pensais que c'était une hallucination du héros. Et non, il est réel dans le livre. Et donc, mais c'est vrai que je voulais explorer cette catégorie du double et de mauvais génie. En plus, lui aussi, ça permet au narrateur d'éviter la responsabilité, parce qu'il peut dire toujours, mais c'était pas ma faute, c'était
oui, c'est
lui
qui l'entraîne, effectivement, oui, oui, sur une pente savonneuse, comme ça.
Oui.
Alors, il y a une scène assez drôle où ils attaquent tous les deux un salon de manucure avec un pistolet qui se révèle être
évidemment,
un pistolet à eau.
Évidemment, c'était utile aussi pour moi, parce que je crois que quelquefois, c'est intéressant comment les problèmes techniques se sont mêlés avec les problèmes dans le roman, parce que moi aussi, j'avais ce problème que si on avait un narrateur qui était évidemment totalement méchant, c'est pas intéressant pour le lecteur. Donc j'ai dû trouver des moyens pour le séduire et pour lui donner des l'occasion de faire le mal, mais c'était pas toujours lui qui l'a inventé. Et donc Hiro était très utile pour moi aussi.
Adam Thirlwell, en France, il y a un proverbe qui dit le diable est dans les détails. Est-ce que vous pourriez dire le diable est dans l'innocence?
Si on pense au diable, je crois que je voulais vraiment essayer de dresser un roman métaphysique ici, parce que je crois que ces problèmes de le mal, le diable, on doit utiliser toujours un vocabulaire assez démodé, assez désuet. Mais il me semble que on ne peut pas aborder quelques questions, certaines questions, mais sans utilisant ce vocabulaire.
Now when you wake up, night's falling, someone is by your side. Pull it together, darling, you're not alone. But when you break up, sky's falling, no one is on your side. Spoon to the laundry, darling, you're all alone. And when you wake up, another sunrise.
Andrew Bird sur RFI, extrait de son nouvel album Mario Sirius qui sortira le 1er avril prochain. VMDN avec Adam Thirlwell, dont le nouveau roman Candide et Lubrique est paru aux éditions de l'Olivier. Alors, dans votre précédent ouvrage, Le Livre Multiple, vous expliquiez que le roman était par nature international, qu'il était possible de le traduire, et même que la traduction était consubstantielle à l'idée même de roman. Alors là, le titre original du livre, c'est Lurid and Cute. Il a été traduit en français en Candide et Lubrique, c'est une traduction qui vous semble correcte, évidente?
Oui, c'est une preuve de l'existence du diable, en fait, que j'ai écrit ce livre essayant de démontrer que la traduction était absolument possible. Et ensuite, j'ai écrit ce roman dont le titre est intraduisible.
Ouais, on est d'accord.
Donc, ouais. Et, mais c'est intéressant, en fait, parce que, oui, lurid, c'est un mot en anglais et on ne peut pas trouver un équivalent en français, en allemand, n'importe quelle langue. Et, mais pour moi, ce qui était important, c'était, lurid and cute, c'est presque une description littérale du roman. Donc, c'est-à-dire, ça décrit les tons principaux du roman. Et aussi, c'est vraiment des tons de mauvais goût. Et donc, on essayait de trouver quelque chose un peu comme ça. Et en plus, la structure, c'est évidemment, c'est contradictoire. Quelque chose qui est lurid ne devrait pas être cute. Et donc, ce qui m'intéresse sur le niveau de la traduction, c'est que ce qui était vraiment important, c'était de trouver un couple aussi contradictoire que lurid and cute. Et je pense que Candide et Lubric, c'est parfait.
Bon, Lubric, parce que comme toujours chez vous, le sexe tient évidemment une place importante aussi dans le roman, avec notamment cette scène d'orgie qui est très très longue. Qu'est-ce qui vous intéresse autant dans le sexe, Adam Sorwell?
Je sais pas. À chaque fois que je commence un roman, je me dis, évidemment, Adam, tu dois éviter le sexe cette fois. Et...
Ben là, c'est loupé.
Oui, chaque fois, c'est l'échec total. Et donc, je pense que c'est pour plusieurs raisons. C'est parce que je suis toujours intéressé. Je veux toujours exploser le roman en quelque sorte. Et donc, il y a toujours un jeu avec la forme, avec la métafiction et tout ça, mais aussi avec le contenu. Et je crois que l'obscène, c'est toujours un champ à explorer. Et surtout, je crois, dans cette époque de porno et on pense qu'on a tout dit, je crois que cette liaison entre le prosaïque et le sexe, entre la comique et le sexe, ça c'est un champ que je veux explorer.
Alors, il y a un autre écrivain, évidemment, que vous connaissez très bien, qui parle très librement de sexe, c'est évidemment Milan Kundera. Vous êtes un inconditionnel, hein, vous l'avez découvert, je crois, quand vous aviez 15 ans.
Oui.
C'est un petit peu un modèle pour vous
Oui,
littérairement parlant,
c'est un grand modèle. Je ne sais pas si c'est vraiment dans ses descriptions de sexe. C'est vraiment, oui, il y a un certain, il y a quelque chose que j'adore chez lui, c'est cet examen du libertin et de ce que c'est d'être libertin. Mais je crois que pour lui et pour moi aussi, c'est lié à une souci plus grand peut-être, qui est une exploration de la morale. Et on veut toujours, je crois, trouver des situations compliquées où les jugements moraux doivent être un peu suspendus. On peut pas juger comme dans la vie, je crois, quand on lit un roman. Et surtout, pour moi, c'était un modèle de la forme, de la construction. Donc, c'était pas seulement le sexe.
Alors, la construction de ce livre est quand même aussi assez singulière, précisément, Adam Sorwell, parce qu'il y a au moins deux façons de lire le livre, page après page, hein, évidemment, comme le veut la tradition. Et puis, il y a une façon beaucoup plus rapide, c'est de lire juste les intertitres, comme ça, en tournant très très vite les pages, parce que ces intertitres-là, ils forment une très longue phrase, hein, qui est très musicale aussi. Il n'y a pas de ponctuation, donc chacun peut aussi mettre la ponctuation un peu qu'il souhaite. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'accompagner, comme ça, le lecteur, avec cette espèce de tourbillon, de sarabande de part et d'autre du livre?
Oui, sarabande, j'aime ça beaucoup, oui. Et donc, j'avais écrit ce roman et donc on parlait de la liberté des pièges. Et je voulais que la narration aussi soit un piège pour le lecteur. Et donc, je l'ai écrit dans un seul jet, sans paragraphe.
Ah oui.
Mais à un certain point, je me suis dit, non, mais c'est trop difficile à s'orienter dans ce texte. Donc, il faut donner au lecteur quelque chose pour
les balises.
Oui. Aussi, ce qui m'intéressait, c'était de faire une phrase énorme et aussi ça forme un cercle presque. On peut recommencer le livre. Et donc, c'est un peu le cercle d'enfer de ce narrateur, de montrer dans ce plan le fait qu'il n'a pas de liberté vraie.
Merci beaucoup, Adam Sorwell. Candide et Lubric, on pourrait presque ajouter ludique aussi, quelque part. Un livre très, 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 très étonnant, très étrange et passionnant qui est paru, on le rappelle, aux éditions de l'Olivier. Une pause, le flash et le café gourmand du vendredi. Vous m'en direz des nouvelles.
Autour de la question.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand. café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec cette semaine autour de la table du café gourmand de VMDN, Maïsa Costache, Carmen Lunzmann, Sophie Torletin et en duplex du bureau de Radio France à Lyon, Daphné Gasteldi. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Hier, dans VMDN, on évoquait l'univers Disney avec Mickey qui revient en force pour de nouvelles aventures en BD et sous le crayon d'auteurs européens cette fois. Aujourd'hui, avec vous, Sophie, vous allez nous présenter quelqu'un que Mickey connaît assez bien, un lavard le plus célèbre du monde de la BD.
Et oui, j'ai nommé Oncle Picsou, milliardaire américain bien connu, dont les meilleures aventures ont été dessinées par Don Rosa et dont Glénat vient d'achever de publier l'intégrale en 7 tomes.
Vous, Carmen, vous allez nous présenter un orchestre pour le moins original.
Ils viennent de Brighton en Angleterre et accomplissent des miracles avec 3 fois rien, des scies, des tuyaux, des cônes de signalisation et des bouteilles de bière. Donc l'orchestre des objets trouvés débarque à l'Olympia à Paris et ça promet être explosif.
On va découvrir ça en fin d'émission. Entre temps, Maïsa, vous allez nous présenter Marcello, une artiste du 19e siècle.
Adèle d'Afri, duchesse de Castiglione et Colonna, une artiste étonnante.
Mais on va commencer avec vous, Daphné. Venez Daphné du Festival du film et du Forum international sur les droits humains à Genève, en Suisse évidemment. Et une grande partie des films en compétition cette année traitent d'un sujet d'actualité extrêmement brûlant, les migrations.
Et oui, et cela prend tout son sens à Genève, la ville de la Convention sur le statut des réfugiés. Ce soir, c'est la première mondiale du documentaire Non-assistance de Frédéric Chauffat, un film engagé. Le réalisateur met en lumière des initiatives de citoyens qui portent secours en mer aux migrants.
Puis Mamadou Diallo, qui vient du Sénégal, j'ai rencontré à Tanger il y a 3 ans, alors qu'il avait déjà essayé 2 fois de traverser le détroit de Gibraltar à la rame. Et il m'a recontacté 3-4 mois plus tard, alors qu'il avait réussi à traverser.
Ce jour-là, la mer était tellement agitée. Mais nous, chaque jour, chaque fois on avait l'idée de partir, on ne mesurait pas les dangers. Si c'est agité, si la température est bien, tu vois, on ne regarde pas toutes ces choses-là.
Mamadou Diallo, vous témoignez dans le film Non-assistance de Frédéric Chauffat. Mmh. Pour vous, ce film, à quoi il va servir?
Pour résumer, moi, ce film va dénoncer quoi, les violences envers les êtres humains. Et aussi la liberté, aussi, je le vois dans ce film. Quoi. Chacun a le droit de circuler, tu vois.
Alors, mon nom est Frédéric Chauffat, je suis réalisateur indépendant depuis 15 années. L'intention de ce film, c'était traiter un sujet qui m'importe depuis très longtemps, qui est la question de l'identité et de la migration. Et plus précisément sur cette histoire-là, quelle est la responsabilité des États, quelle est notre responsabilité par rapport à tous les morts en mer.
Come on, people are dying in the sea. Do you think it's a joke?
Carolina Boussada, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans ce film?
Je travaille généralement pour Médecins Sans Frontières. En fait, je suis la responsable de l'unité de recherche. Et ce que je voulais montrer avec Frédéric, c'était surtout la possibilité de gens comme vous et moi de s'impliquer. Ça commence avec une plateforme qui s'appelle Watch the Med, qui vise à montrer les cas de violations en mer, les cas de non-assistance à personne en danger.
I am from the Watch Med alarm phone. I like... No, I don't speak Turkish, my friend.
Cette initiative a donné lieu à une autre initiative qui s'appelle l'Alarm Phone. Il y a 100 de bénévoles qui sont impliqués dans ce réseau d'Alarm Phone qui répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour pouvoir relayer ces messages de détresse aux gardes-côtes et de faire que ces gens qui sont en détresse soient pris en charge.
En compétition également au Festival du film sur les droits humains, on retrouve Sonieta, le parcours d'une réfugiée afghane en Iran, ou encore Nice People, l'histoire de migrants somaliens qui s'entraînent au hockey sur glace en Suède.
Et cette année, Daphné, le festival rend hommage à Leïla Alaoui, cette photographe assassinée lors des attentats de Ouagadougou au Burkina Faso le 15 janvier dernier. Daphné, est-ce que ces célèbres portraits sont exposés à Genève?
Oui, il y a en effet des photographies poignantes, des portraits de réfugiés pris dans des camps au Liban en 2013. Isabelle Gattiker, la directrice générale du festival, nous fait visiter l'exposition Natrine à la Maison des Arts du Grootli, non sans émotion.
Natrine, c'est un mot arabe qui veut dire « nous sommes en train d'attendre ». C'est une exposition sur les réfugiés syriens au Liban. Alors on s'arrête ici devant un portrait de 3 jeunes garçons. Je sais que Leïla était très très attachée à cette photo et surtout très attachée au petit garçon qui s'appelle Samer. Il a été opéré, l'opération n'a pas marché, il est paralysé. L'affiche du festival est une photo de Leïla Alaoui, c'est sa première photo professionnelle. C'est un travail autour du khag, c'est ce feu qui brûle les jeunes migrants ou les jeunes qui ont envie de partir de l'autre côté de la Méditerranée. Leïla Alaoui était l'artiste à l'honneur avant son décès, donc toute l'édition lui est bien sûr dédiée, on lui a rendu un hommage pour la cérémonie d'ouverture officielle. Barbara Hendricks a aussi chanté « We shall overcome » en hommage à Leïla.
Et une fondation Leïla Alaoui verra bientôt le jour pour soutenir l'engagement artistique en faveur des droits de l'homme.
On entendait à l'instant Barbara Hendricks, la soprano, elle est la marraine de ce festival, elle fait partie du jury. C'est pas tellement étonnant d'ailleurs, Daphné, parce que c'est une femme très engagée.
Et oui, on ne le sait pas forcément, mais la chanteuse classique de renommée mondiale est ambassadrice auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. On l'écoute.
Il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées dont nous sommes ignorants, parce que surtout dans le monde occidental, on parle juste de ce qui se passe autour de nous.
Si cette situation des personnes qui migrent aujourd'hui devait être une chanson, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ?
Il a une chanson que je chantais à l'église qui est « Sometimes I feel like a motherless child ». Des fois, je me sens comme je suis orpheline, quoi. Des fois, j'imagine que les gens se sentent très isolés, des fois, et très seuls.
C'était Barbara Hendricks, Jean-François, la marraine du festival.
Une dernière question, Daphné, est-ce que ce festival est ouvert aux migrants ?
Tout à fait, et pour la première fois, des centres d'accueil de personnes migrantes sont ouverts au public pour des projections. Ce dimanche d'ailleurs, dans un cadre plus privé, le grand acteur mexicain Gael Garcia Bernal sera dans un foyer à Genève. Rappelez-vous, la star d'Hollywood avait réalisé le film « Who is Diane Crystal ?» sur les filières de l'immigration en Amérique centrale.
Merci beaucoup Daphné. Pour ceux qui se rendent à Genève, sachez que le festival du film et ce forum international des droits de l'homme se terminent dimanche. Et vous, Maïsa, vous êtes rendue du côté de Genève, au musée des Suisses dans le monde, à Chambéry, pour voir l'exposition Marcello, femme artiste entre cour et bohème.
Une découverte étonnante de cette grande artiste, Adèle Daffry, duchesse de Castiglione, Colonna, dont le pseudonyme est Marcello, et qui est aujourd'hui pratiquement inconnue du grand public. Née dans une famille de la grande noblesse fribourgeoise en 1836, elle va réussir dans sa courte vie, car elle meurt à 43 ans, à s'imposer dans un milieu artistique réservé aux hommes. La sculpture. Elle a partagé sa vie entre la Suisse, la France et l'Italie, tiraillée entre la cour de Napoléon III et la Bohème, et connue les grandes personnalités artistiques de son temps, Mérimée, Gounod, Lamartine, Delacroix, Courbet, Liszt, et a même inspiré Alphonse Daudet pour la duchesse de Padovani dans son roman « L'immortel ». Artiste intègre et sans compromission, Adèle Daffry travaille la sculpture de l'avenir. « Oui, je suis un babeleux, dit-elle, une artiste, une femme d'esprit, c'est-à-dire un tyran. Et l'on ne se doute pas de la bonne petite créature qui est là-dedans. » Monique van Wistenhausen et son arrière-petite-nièce est mon guide passionné dans l'exposition.
Il faut reconnaître que c'est encore beaucoup de mystère sur ce personnage d'Adèle, parce qu'elle arrive tellement vite à pas mal de perfection, alors qu'au fond, elle n'est pas vraiment formée.
Non.
Alors, son statut de femme et de femme aristocrate l'empêche d'avoir accès aux écoles habituelles. Elle ne peut pas aller à l'école de l'académie. Je dirais qu'elle se jette dans cette nouvelle profession. Elle veut en faire une profession et elle réussit d'une manière assez extraordinaire.
1863 est une date capitale dans la vie de l'artiste. Elle choisit le pseudonyme de Marcello pour exposer au Salon de Paris. On s'arrête devant son premier succès, la sculpture de Bianca Capello, un bronze partiellement doré.
Bianca Capello, qui est ici, est une statue qui va avoir un succès fantastique. Elle correspond à l'esprit du temps. Donc, et par ailleurs, elle est tout à fait étonnante quand même, parce que elle est d'inspiration florentine. Bianca Capello était un personnage en fait redoutable, qui était la maîtresse du grand-duc de Toscane, qui voulait empoisonner son beau-frère. Son mari a pris le poison. Donc c'est une affaire tout à fait tragique. Et alors elle s'inspire de Michel-Ange, et comme vous le voyez, elle soigne énormément la coiffure, et cette figure altière fait son succès.
Fasciné par l'Orient, Marcello recherche dans ses voyages en Espagne et en Italie des personnages typés pour ses sculptures ou ses peintures. L'Orient, dit-elle, c'est là que je ferai de belles choses avec de tels types. Et dans l'exposition, on peut voir un étonnant tableau intitulé « Chef indien » ou bien ce bronze de 1869 qu'elle a appelé « Chef abyssin » dont Monique van Wistenhausen va nous raconter l'histoire.
Elle est à Rome en 69. L'année 69, c'est vraiment l'apogée, si vous voulez, de son art. Et là, elle voit quelqu'un dans la rue qui lui plaît. Alors, elle le prend dans sa calèche. Et elle en fait, donc, une sculpture qui a eu beaucoup de succès à l'époque. Et alors, il dit que c'est un arabe ou un chef abyssin, mais en fait, c'était tout simplement un brigand romain qui, à un moment donné, a été condamné. Mais donc, c'est tout à fait elle, quand elle trouve quelqu'un, elle trouve un type, un caractère.
Marcello, qui a été influencé dans sa création et dès ses débuts, Maïsa, par Michel-Ange.
Elle en retrouve cette influence dans son œuvre la plus criante de vérité. La plus impressionnante sans doute, il s'agit de la Pythie. L'artiste va atteindre ici sa plénitude. Elle sculpte le corps d'une femme en torsion, animée d'une force intérieure. Une sorte de gitana, dit-elle. Elle veut saisir le naturel, le fugitif.
La Pythie, donc, c'est un thème qui est traité très très souvent dans l'histoire de l'art. Mais ce qui est intéressant, c'est que Adèle, là, se risque à en donner une version, mais tout à fait nouvelle. Et alors, elle dit que sa Pythie, c'est plutôt une gitane indienne. Et elle se met tout entière dans cette statue. C'est une statue extraordinairement autobiographique. Parce que il y a ce côté mélange de désir et d'angoisse, là, n'est-ce pas, la main, on ne sait pas si elle désire ou si elle a peur. Alors, cette Pythie étonne tout le monde. Elle est refusée au salon, mais par contre, elle est tout à fait retenue et admirée par Charles Garnier, qui est, comme tout le monde sait, l'architecte de l'opéra. Et donc, en 1875, elle sera placée tout à fait au bas du grand escalier, admirablement placée. Et donc, je recommande à tous ceux qui vont à l'opéra, parce que maintenant c'est possible, d'aller voir cette statue qui intrigue de nouveau. Marcello, personne ne sait qui c'est. Eh bien voilà, maintenant vous savez qui c'est.
Femme de lettres, peintre et sculpteur, Marcello brûle sa vie. Elle tombe malade de tuberculose en 1877. Elle sait qu'elle va mourir et écrit ses mémoires. Si je guéris, je serai encore artiste. Tout ce temps perdu est une de mes pires croix, écrivait-elle dans ses lettres. Et l'exposition finit par l'hommage de l'artiste italienne Luisa Figini à la mémoire de Marcello, une mantille faite de plumes qu'on perçoit comme dans un rêve. Pour garder le souvenir de cette grande artiste en avance sur son temps, qui a bousculé par son œuvre la médiocrité et la frivolité de la société mondaine.
Exposition à voir jusqu'au 4 juin.
C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou, Picsou. C'est le plus puissant de tout Canardville, Picsou, Picsou.
Oncle Picsou en français, Uncle Scrooge en version originale, c'est le canard radin et régissime de la galaxie Donald Duck, le 7e et dernier tome de l'intégrale, signé Don Rosa, vient donc de paraître, Sophie, chez Glénat.
Oui, alors Don Rosa n'est pas le créateur originel, donc le Picsou, puisqu'il est né à peu près au même moment que lui, hein, que son apogée, hein, dans les années 50, mais il a repris la créature de Karl Barks en imaginant toute sa jeunesse. Don Rosa ancre les histoires de Picsou dans la réalité. Il fait se rencontrer ces personnages imaginaires de Donaldville et des personnalités historiques, hein, comme par exemple dans certaines histoires, Theodore Roosevelt ou Geronimo. Son œuvre la plus célèbre, c'est La jeunesse de Picsou, qui lui valut un Will Eisner Award en 1995. C'est la grande distinction, hein, de la bande dessinée aux États-Unis. Alors, cela fait 10 ans, cela dit, que Don Rosa a cessé de dessiner Picsou. Il est assez amer et critique, hein, sur le système Disney, ouais. Mais il reste très attentif attachée au personnage. C'est ce qu'il m'a confié lorsque je l'ai rencontré au festival d'Angoulême en janvier dernier.
Quand j'ai compris que j'allais consacrer ma vie à Picsou, je me suis rendu compte que les auteurs précédents l'avaient transformé en parangon de l'américain avide et radin. Et je ne pouvais tout simplement pas travailler avec un tel personnage. Il fallait que je puisse apprécier Oncle Picsou. Je ne voulais pas le transformer. Donc, j'ai décidé de tordre un peu sa personnalité. Ce n'est pas qu'il est avide, mais il est compétitif et fier d'atteindre un objectif, gagner beaucoup d'argent ou trouver un trésor ancien. J'ai fait en sorte qu'il me ressemble. J'ai écrit des histoires sur sa chambre des trophées et ça prouve qu'il n'est pas radin, mais qu'il est anxieux à l'idée de perdre des objets qui représentent beaucoup pour lui. De la même façon que ma collection de bandes dessinées compte beaucoup pour moi. J'ai besoin de comprendre ses motivations et l'avidité n'en est pas une bonne.
La fortune, me voilà.
Don Rosa qui rend hommage à Karl Barks, hein, l'auteur qui a développé l'univers de Donaldville.
Oui, à tel point, d'ailleurs, c'est un détail amusant, hein, que Don Rosa dédie à Karl Barks chaque histoire qu'il crée en cachant un hommage, hein, qui a échappé aux éditeurs de chez Disney.
Sur la première page de toutes mes histoires et ensuite sur chaque couverture, je cachais une dédicace à Karl Barks, D-U-C-K, dédié à Oncle Karl de la part de Kino, Kino étant mon prénom. D-U-C-K comme duck en anglais, qui veut dire canard. J'ai dû cacher cette dédicace car sur la première histoire, je l'avais écrite à la main, mais Disney a voulu que je l'enlève car cela ressemblait à une signature et à l'époque, ils n'autorisaient pas les signatures des auteurs. Donc, j'ai décidé de cacher la dédicace. Les fans sont assez malins pour la trouver, mais pas les décideurs de Disney. Et tout le monde sait que je rends hommage à Karl Barks et non pas à Disney.
Oui, je sais tout ça, mais ça
change absolument tout. Nous allons tous partager les profits.
Il faut dire, Sophie, que Karl Barks et Don Rosa figurent parmi les auteurs de personnages de la galaxie Disney les plus populaires, les plus respectés aussi, d'ailleurs.
Oui, alors Don Rosa, donc, il est, vous l'avez compris, scénariste et dessinateur, hein. Il a vraiment creusé l'histoire, le passé de Balthazar Picsou. Il a imaginé comment il était devenu si riche, mais aussi si avare. Il a humanisé le personnage. Mmh. Il y a même une dimension presque mélancolique, hein, parce que sous sa plume, Picsou n'apparaît pas tant radin que cela, mais plutôt soucieux de sa réussite, hein, on l'entendait, de ses trésors. Jaloux aussi de la relation entre Donald et les castors juniors, Riri, Fifi et Loulou. Et en fait, Don Rosa, lui, on l'entendait, il paye vraiment son tribut à Karl Barks.
Quand j'ai compris que j'allais consacrer ma vie à Picsou, je me suis rendu compte que les auteurs précédents l'avaient transformé en parangon de l'américain avide et radin. Et je ne pouvais tout simplement pas travailler avec un tel personnage. Il fallait que je puisse apprécier Oncle Picsou. Je ne voulais pas le transformer. Donc, j'ai décidé de tordre un peu sa personnalité. Ce n'est pas qu'il est avide, mais il est compétitif et fier d'atteindre un objectif, gagner beaucoup d'argent ou trouver un trésor ancien. J'ai fait en sorte qu'il me ressemble. J'ai écrit des histoires sur sa chambre des trophées et ça prouve qu'il n'est pas radin, mais qu'il est anxieux à l'idée de perdre des objets qui représentent beaucoup pour lui. De la même façon que ma collection de bandes dessinées compte beaucoup pour moi. J'ai besoin de comprendre ses motivations et l'avidité n'en est pas une bonne.
Je suis certain que tu as triché.
Je sais que je suis plus riche que toi.
Tu étais le plus riche, mon vieux Picsounet.
Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que quand je l'ai rencontré, Don Rosa, il ressemble presque physiquement à Picsou, s'il a des cheveux blancs et des grandes lunettes rondes.
Ah oui.
Mais la comparaison physique s'arrête là.
Bon, quand même. Alors, Don Rosa a vraiment creusé, on l'a compris, l'univers de Picsou. Est-ce qu'il reste des questions en suspens, Sophie?
Oui, parce que par exemple, on ne sait pas pourquoi c'est Donald qui s'occupe de ses neveux.
I don't know. That's the way it was even when Karl Barks started.
Je ne sais pas. C'est ainsi même quand Karl Barks a créé le personnage. C'est l'une des seules choses que lui a dit Disney. Le personnage de Donald Duck s'occupe de ses trois neveux. Même Karl Barks ne l'expliquait pas. Cela voudrait dire qu'il y a eu un deuil ou un abandon d'enfant et ce serait trop déprimant d'imaginer pourquoi. Je n'y ai jamais pensé. Je me suis amusé à imaginer l'origine du premier sou de Picsou par exemple. Mais le passé des castors juniors, je n'y ai jamais touché.
Donald's three nephews, I couldn't touch that.
Il y a encore donc des choses qui restent à imaginer. Il y a quand même pas mal de découvertes et de beaux plaisirs de lecture, hein, Sophie, vous le disiez, avec ces 7 tomes de l'intégrale Picsou par Don Rosa, et le 7e et dernier tome vient donc de paraître aux éditions Glénat. Merci. Entrons à présent dans le monde fabuleux et féerique de l'orchestre des objets trouvés. Avec vous, Carmen, cette troupe anglo-saxonne venue tout droit de Brighton, sur la côte sud de l'Angleterre, débarque ce soir à Paris et pose ses instruments à l'Olympia pour une douzaine de concerts. Et vous avez fait un saut de l'autre côté de la Manche pour découvrir ces instruments sans pareil.
Et c'est un véritable laboratoire artistique au milieu de nulle part, à une demi-heure de Brighton en voiture. Un énorme hangar de plus de 500 mètres carrés qui ressemble à une quincaillerie géante, à une sorte de caverne d'Ali Baba remplie d'instruments farfelus. Exemple.
On dirait des cloches de vache, c'est ça ?
Oui, c'est un peu plus sophistiqué que ça, explique John.
Toutes ces notes forment un accord en Do majeur, par exemple. Ça, c'est un Mi mineur. Et ceci, un La mineur. Ce sont des tubes en cuivre dans des tonneaux en bois. C'est très lourd à porter, mais le son est magique.
Autre merveille, le vérophone, qui était le billet d'entrée du batteur allemand Andres dans cet orchestre fait de briques et de brocs.
C'est du verre industriel, de laboratoire, des tubes de différentes longueurs arrangés comme un orgue. On peut jouer plusieurs notes à la fois, créer des nappes comme un synthétiseur. Cet instrument a été inventé dans les années 80, il en existe peut-être 20 à 25 dans le monde entier. Et à l'époque, ils étaient à la recherche de ce son féerique de verre.
Und da waren die eben auf der Suche nach diesem Sound, Glas und diesem märchenhaften, ja.
Alors qui sont-ils, Carmen? Qui sont ces magiciens des sons qui arrivent ainsi à transformer les objets les plus banals en instruments de musique?
Ce sont deux amis qui ont commencé à taper sur des poubelles et des bicyclettes à Paris il y a plus de 30 ans maintenant, Luke Cresswell et Steve McNichols.
Luke, en tant que batteur, n'avait pas envie de rester assis au fond. Donc un jour, il arrive avec une caisse claire attachée à sa ceinture afin de pouvoir bouger. Et c'est là que tout le voyage a commencé. Le batteur devient performeur et ça nous a ouvert plein de portes.
Et c'est ainsi qu'ils ont inventé l'un des plus grands succès mondiaux de percussion, Stomp, que vous connaissez peut-être, Jean-François, qui utilise donc des objets du quotidien, casseroles, balais, tonneaux de plastique, poubelles en fer, pour en faire un spectacle d'une virtuosité et d'une acrobatie à couper le souffle. Mais au bout de 20 ans de triomphe et plus de 8 millions de spectateurs, ils se sont dit qu'il faudrait peut-être changer de concept. Et ils ont créé, il y a 10 ans déjà, un orchestre symphonique unique au monde. Et ça a dû se faire en moins de 4 mois, se souvient l'ingénieur du son Mike Roberts.
Pour le tout premier spectacle, nous n'avions pas d'instruments, pas de matériel. Nous ne savions même pas où commencer. Nous avions besoin d'une centaine d'instruments et nous n'avions rien. C'était assez flippant.
Et ils sont partis dans la rue et à la décharge. Ils ont fouillé dans des magasins de jouets et d'animaux pour construire des trombones aux tuyaux d'arrosage fixés à des cônes de signalisation ou des timbales sortis tout droit de la cuisine, explique Tom.
Ce sont des chaudrons pour faire de la soupe et la peau est faite à partir de la toile de la voile d'un yacht.
La section des cordes est remplacée par une section de scie.
Et on souffle dans des bouteilles de bière remplies d'eau, Steve McNichols.
Nous avons beaucoup d'instruments qui s'accordent grâce à l'eau. Et l'eau s'évapore, surtout quand il fait chaud dans la salle. Donc c'est un peu un cauchemar, mais un joli cauchemar qui vaut la peine.
Alors est-ce qu'il y a un message écologique derrière ce concept de matière de récupération sublimée, Carmen?
S'il y en a, Jean-François, ce n'est pas vraiment le propos, précisent les fondateurs de l'ensemble.
La philosophie derrière, c'est que l'on peut tout faire si on a de l'imagination. Il ne faut pas que ce soit l'objet le plus cher du monde pour en faire quelque chose de bien. Mais il faut du temps et de l'imagination.
Et c'est vraiment inspiré par des choses simples, comme regarder Gene Kelly faire des claquettes dans la rue. C'est d'amener quelque chose de beau dans le quotidien.
L'Orchestre des Objets Trouvés, c'est donc à découvrir à l'Olympia dès ce soir et jusqu'au 25 mars inclus. Merci beaucoup.
Jusqu'au 20 mars. Hein.
20 mars inclus, oui, soyons précis, vous avez bien raison. 20 mars. Merci à tous les quatre. Merci Carmen, Maïsa, Daphné et Sophie. Dans un instant, l'info sur RFI. On se retrouve lundi pour parler poésie et langue française et vous m'en direz des nouvelles.